Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Certes, le nombre des disciples du ressuscité croît sans cesse dans la ville sainte. Mais cela n'empêche pas que l'on assiste parfois à la mise à jour de problèmes un peu mesquins, d'influence, de favoritisme. Le grand vent de l'esprit suscite des générosités admirables, mais déjà, certains essayent de négocier de bonnes réputations chrétiennes en trafiquant des actes vertueux. Ananie et Saphir paieront de leur vie leur attitude double. On ne peut à la fois prétendre tout donner et conserver par devers soi des capitaux et des assurances. Le Dieu de Jésus demeure celui du désert et de l'appel d'Abraham. L'événement de ce matin, c'est la revendication des veuves d'origine grecque. Elles sont venues plusieurs fois signaler à Céphas qu'elles ont l'impression de ne pas être traitées de la même manière que les femmes juives. Dans la distribution des vivres, elles observent que les meilleurs morceaux sont rarement pour elles, sans parler de passe-droit, dont elles ne bénéficient pratiquement jamais. Elles sont là, butées, et peu disposées à prendre congé avant d'avoir reçu satisfaction.
Je ne pense pas que ce soit bien pour nous de négliger la prédication de la parole de Dieu et d'investir tout ce temps-là dans la distribution des vivres. Voilà ce que je propose. Choisissons 7 hommes, connus pour leur bonne réputation, leur sagesse, leur amour de Dieu, et confions-leur l'économie de la communauté. Nous, les apôtres, nous consacrerons notre temps à la prière et à la diffusion de l'Évangile.
On ne mit pas beaucoup de temps à trouver ceux que, très vite, on nommera les diacres. Certains de leurs noms demeurent inconnus à beaucoup. Qui se souvient de Procor, de Nikos, de Timon, de Parménas et de Nicolas? Les visages d'Étienne et de Philippe demeurent présents à toutes les mémoires. Étienne, tout le monde l'aime. Il est jeune et tellement enthousiaste. Quand il a dit oui au Seigneur Jésus, tout a changé dans sa vie. Plus rien d'autre n'a compté. Les garçons et les filles de son village ont noté qu'il les regardait autrement. Oh, il n'était pas triste, ni morose, bien au contraire, mais toutes les occasions étaient bonnes pour qu'il raconte son aventure avec le Christ. Son feu intérieur était tellement intense qu'il en devenait imprudent. Il réunissait ses amis, puis les amis de ses amis, et son discours était tellement convaincant que beaucoup choisissaient de le suivre. Parmi eux, on trouvait même des prêtres. Bien évidemment, il y avait des milieux à Jérusalem qui ne voyaient pas d'un très bon œil se développer l'influence du jeune homme. L'affaire de Pierre et de Jean était trop proche pour qu'on ne s'en souvienne pas. En un tour de main, Étienne fut escamoté et sans plus attendre, présenté devant le conseil des sages.
Ce morveux n'arrête pas de dire des insanités contre Moïse et contre Dieu. Il traîne dans la boue le temple et la loi. Il est allé jusqu'à prétendre que son Jésus détruirait le lieu saint et changerait les traditions que Moïse nous a données.
Mes frères, mes pères, écoutez-moi. C'est notre histoire que je vous raconte. Dieu s'est manifesté à Abraham, notre père, et il lui a dit, quitte ta terre, laisse ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Puis, il conclut avec lui une alliance signifiée par la circoncision. Vous vous souvenez, Abraham eut Isaac comme fils. Isaac fut le père de Jacob, qui engendra les 12 patriarches. Ce fut très vite la division parmi eux. Joseph, le dernier d'entre eux, ils le vendirent comme esclave pour s'en débarrasser. Mais Dieu le suivait. Alors, il devint maître de l'Égypte et sauva ses frères de la famine. Le nombre des Juifs ne cessa de grandir au pays du Pharaon. Mais on oublia Joseph. Et les maîtres de l'Égypte se mirent à faire du mal à notre peuple. Alors, Moïse vint au monde. Et à 40 ans, oubliant les délices du palais où il avait vécu, il voulut prendre fait et cause pour nous. Malheureusement, il ne fut pas écouté. On n'arrêtait pas de lui rappeler qu'on l'avait vu en train d'assassiner un Égyptien. Il s'exila jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur lui parle. « Je suis le Dieu de tes pères, lui dit-il. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » J'ai vu que mon peuple était durement maltraité en Égypte. J'ai entendu les gémissements et j'ai décidé de le libérer. Va, oublie tes déceptions et retourne en Égypte. Moïse, un homme que son peuple avait rejeté, Dieu l'envoie comme chef et sauveur. On le voit nous faire sortir d'Égypte. On le voit parler et dire « Dieu fera surgir du milieu de vos frères un prophète semblable à moi ». On le voit enfin recevoir des mains de Dieu une parole capable de donner la vie, de la communiquer à tous. Eh bien, une nouvelle fois, nos ancêtres dirent non à ces propositions. Ils se mirent à grogner et à regretter leurs oignons d'Égypte. Ils se construisirent un veau d'or, ce qui incita le Très-Haut à s'éloigner d'eux, sans pour autant les abandonner. Dans la tente de l'Alliance, l'Éternel parlait avec Moïse. Le roi Salomon édifia un temple au Seigneur, mais le Tout-Puissant n'habite pas des maisons construites par les hommes. Oui, vous regimbez, oui, vous n'écoutez pas, tête dure. Vos cœurs sont blindés et vos oreilles ne veulent rien entendre. Vous n'arrêtez pas de vous dresser contre le Saint-Esprit. Vous ne valez pas plus cher que vos ancêtres. Il n'y a pas un seul prophète que vos pères n'aient pas persécuté. Ils les ont tués cruellement, ceux qui annonçaient la venue de Jésus, le Christ, cet homme que vous avez trahi et crucifié. Dieu vous a donné la loi et vous l'avez méprisée. Je vous le dis, devant mes yeux, le ciel est ouvert. Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Les hurlements fusent de partout. Étienne est entouré. Un coup de poing lui écrase la bouche. Une légère veut lui arracher les yeux. Il se tait, maintenant conscient que son air est proche. La foule le piétine. Puis l'un des assistants décide, écrasons-le sous les pierres, près du mur aux ordures. Le jeune homme semble ne plus rien voir. Un gros caillou lui défonce la tête.
Seigneur, ne leur tiens pas rigueur de rouge. Comme pour toi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, Jésus, je remets mon esprit.
Il n'y a plus rien qu'un corps disloqué, au visage curieusement marqué d'un sourire. L'attention de la foule est tombée, comme si elle regrettait déjà d'avoir massacré cet homme, encore adolescent. Trois hommes par-ci, deux femmes par-là, quittent les lieux de l'exécution, le regard fuyant. Un seul des assistants, les yeux durs, ne manifeste aucun regret. On l'appelle Saül. C'est un pharisien, originaire de Tarse, en Cilicie.
Étienne, mon ami, Étienne, mon frère, je me souviens de chaque instant de ce moment qui fut à la fois notre première et notre dernière rencontre. Mon cœur était vide et j'enviais la joie du tien. Ton amour me révélait ma haine. C'était insupportable. J'ai cru que l'on prenait ta vie. En fait, tu l'as offerte, tout simplement, et j'ai été le premier fruit de ton sacrifice.
La suppression d'Étienne n'est que le début des calamités. Un mot d'ordre, venu du Sanhédrin, se diffuse très vite. Il faut à tout prix réduire au silence tous les disciples de Christos. La communauté de Jérusalem se disperse. Les uns se réfugient en Judée, d'autres en Samarie. Saül de Tarse organise la répression. De jour et de nuit, il entre dans les maisons, fait des interrogatoires. Au moindre soupçon d'amitié envers le Galiléen ou ses amis, il entre en fureur et envoie hommes, femmes et enfants dans les prisons près du temple. Ceux qui ont quitté la ville ne restent pas inactifs. Philippe est en Samarie. Il s'est installé dans un village et annonce que Jésus est ressuscité à tous ceux nombreux qui l'écoutent. Le courage dont il témoigne semble béni par Dieu. On ne compte plus les miracles qui jalonnent son chemin. Un jour, l'Esprit suggère à Philippe d'aller vers le sud, sur la route qui conduit de Jérusalem à Gaza. Une route, la plupart du temps, déserte. Il marche. Depuis un quart d'heure, quand un bruit de roues sur les galets le fait se retourner. L'attelage est somptueux. Le propriétaire doit être un personnage. À la hauteur de Philippe, la voiture s'arrête. Un homme corpulent entr'ouvre les rideaux. Il a dans sa main un rouleau de parchemin.
Qui es-tu, étranger, toi qui chemines comme cela au grand soleil?
Je suis Philippe et je viens de Samarie. Je vois que tu lis notre loi. Es-tu juif?
Mon pays est loin d'ici, en Éthiopie. Je suis venu en Judée pour les affaires de ma reine, Candace. Elle me fait confiance et je puis dire qu'il n'y a personne au-dessus de moi dans toute l'Éthiopie. Oui, je lisais Isaïe le prophète. C'est magnifique.
C'est magnifique, oui. Mais est-ce que tu comprends bien ce que tu lis?
Si personne ne me l'explique, tiens, par exemple ce passage. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis entre les mains de ceux qui la tondent, il n'ouvre pas la bouche. Mais de qui l'écrivain parle-t-il? De lui ou de quelqu'un d'autre?
Alors, patiemment, Philippe commence à tout expliquer. Le fonctionnaire de la reine fait plus qu'écouter. Il dévore des yeux cet homme qui lui ouvre des horizons insoupçonnés. Manifestement, la lumière s'installe au plus profond de lui.
Philippe, je sais que je crois en Jésus, le Fils de Dieu. Arrêtons-nous près de cette rivière et je t'en prie, baptise-moi.
Étais-nous, je te baptise, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit.